Vendredi 16 décembre 2011, première édition de La Vie en BD sur les ondes de CKRL 89.1. Raymond Poirier avec vous ici en studio à CKRL 89.1, vendredi 16 septembre. J'étais déjà rendu en décembre à la fin de la saison, alors on se projette de l'avant, décidément. Et c'est parce qu'on est extrêmement content d'être là, d'être avec vous ici au 89.1 pour vous parler de bande dessinée, La Vie en BD, une nouvelle émission qui fait son apparition cette semaine, là, maintenant, tout de suite à la grille horaire de CKRL. Et le titre le dit bien, on va parler bande dessinée. On va également ouvrir un peu l'univers. On va aller lorgner notamment du côté de l'animation, voire du côté de l'illustration, du fanzine, des blogs, bien entendu, qui est devenu un genre incontournable dans l'univers de la bande dessinée. On va également essayer de voir les implications de la bande dessinée dans d'autres sphères, que ce soit dans des magazines, au cinéma et ailleurs. Bref, ce sera pour nous, autant que pour vous, une occasion d'explorer cet univers absolument fabuleux, puisque on lui consacre une émission d'une heure hebdomadaire. Alors, une heure, bien entendu, ça implique qu'on est avec vous jusqu'à 18h30. Et pour cette première émission, on a bien rempli, on a créé le plus beau menu qu'on pouvait vous créer pour une première, du moins je trouve. Alors notamment, on va parler, je parlais de blog tout à l'heure, jetez un coup d'œil justement à l'univers des blogs autobiographiques. Il y a une auteure de Montréal, Julie Delporte, qui a consacré aux éditions Colosse un essai, essayant de voir un peu l'influence du numérique justement sur la BD autobiographique et voir un peu quel développement ça a engendré au niveau du style autobiographique à proprement parler. Côté entrevue également, tout à l'heure, on aura le plaisir de recevoir un auteur de Québec, Philippe Girard, qui nous offre aujourd'hui, en fait, il est disponible depuis le 16 septembre, son nouvel opus, sa nouvelle œuvre, ça s'appelle Rewind, une BD très intéressante. J'ai vraiment hâte de vous en parler et d'en parler avec lui. Également des collaborateurs qui seront avec nous aujourd'hui, notamment on va parler avec Stéphane Gravel tout à l'heure, qui sera avec nous pour parler BD, BD européenne, BD québécoise, donc quelques critiques et survols. Et également en fin d'émission, on va jaser avec Michel Giguère, vous le connaissez notamment, il est professeur de BD à la Maison Jaune, il est responsable également des rendez-vous de la BD à la bibliothèque Gabriel Roy. Et d'ailleurs, il y a un rendez-vous qui s'en vient très bientôt, la semaine prochaine, où on va parler des liens entre la bande dessinée occidentale et le manga. Alors, il y a plus de liens que vous ne pourriez le soupçonner. Alors, c'est le menu pour aujourd'hui. On respire un peu musicalement. J'en ai bien besoin avec un menu aussi chargé. Et côté respiration musicale, justement, je vous invite à découvrir notre proposition de la semaine. À chaque semaine, on va justement vous proposer une sélection musicale avec quelques extraits qui seront diffusés au cours de l'émission. Et cette semaine, on écoute et on découvre une formation canadienne. Un jeune homme de 19 ans qui fait de la musique, à savoir un peu électronique, un peu folk, un peu atmosphérique. Ça s'appelle The Parish of Little Cliff. On en écoute un extrait tout de suite. We'll be right back. Echoes. Et avant de se lancer dans les critiques BD de Stéphane Gravel, peut-être deux petites mentions, un peu tristes en fait, je ne voulais pas les mettre dans le premier segment, parce que c'est dommage de commencer avec ça, mais l'univers de la bande dessinée a perdu deux dessinateurs la semaine dernière, notamment l'auteur Daniel Hulet, qui a perdu la vie, Daniel Hulet, qui s'est fait remarquer avec la série Pharaon, qu'il avait réalisé avec le scénariste André-Paul Duchesneau. Récemment, en fait, il avait offert notamment Fleury Nadal, en fait, deux tomes qu'il avait réalisés en collaboration avec Franck Giroud. Alors ben voilà, donc Daniel Hulet qui est décédé. Également, le dessinateur Gilles Chaillet qui a perdu la vie. Monsieur Chaillet qui s'était fait illustrer, qui s'était fait reconnaître récemment avec La Rome des Césars chez Glénat, en fait, 2004. Un très, très bel ouvrage d'ailleurs. Et sinon, on lui devait notamment Tomblaine avec Bernard Capot chez Casterman. Il avait collaboré aussi largement à la série Les Voyages d'Alix dans les années 1970. Alors ben voilà, donc Gilles Chaillet, qui a également rendu l'âme, donc, en semaine dernière. Alors, cela étant dit, on change de ton et on sort le volume, on sort les BD. Stéphane Gravel est avec nous, bonjour.
Oui, allô.
Ça va bien?
On va commencer à en perdre, hein, des grandes BD, là.
Effectivement, en fait, c'est seulement une semaine, deux, en plus, on se rappelle Tabari à la fin d'octobre, qui avait perdu la vie également, le père d'Isno Good.
Ben oui, mais c'est un peu les personnages qui sont un peu du post-âge d'or de la BD. Là, c'est les grands auteurs qui, dans les années 70, ont ramené la BD au côté populaire. Mais c'est normal que veux-tu. C'est la vie.
La vie est ainsi faite. Et si on regarde, Stéphane, dans le présent, notamment l'album, tu avais envie de commencer, justement, ce regard que tu vas porter avec nous cette saison-ci, avec ce volume-là. Ça s'appelle Un privé en cambrousse.
Mais avant, là, j'ai attrapé une maladie.
Oh.
J'ai attrapé une maladie, j'écoute le rugby. Est-ce que tu écoutes le rugby? C'est la Coupe du monde de rugby. Il faut l'écouter, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, c'est un jeu de fou. Il y a quel retour, hein?
Oui.
Tu avais oublié les accords, hein?
Effectivement,
tu avais oublié. Oui, le privé en cambrousse. Écoute, c'est un auteur de BD, Bruno. Bruno Heitz, c'est un auteur que j'adore. Il y a un côté qui est un peu en marge, qui est un peu décalé. Et là, avec Un privé en cambrousse, c'est chez Gallimard que c'est paru, cette BD-là. Eh bien, c'est encore une fois, c'est un côté un petit peu à part de la BD conventionnelle. Premièrement, c'est une BD en noir et blanc, qui est un peu dans l'esprit du roman graphique, là. Mais c'est un dessin qui est très, très simple. Souvent, t'as l'impression que ça pourrait être fait quasiment sur le coin d'une table. C'est pas griffonné, c'est assez précis. C'est un trait quand même...
C'est un bon simple.
Mais c'est un beau simple, c'est un simple simple. Et là, avec cette BD-là, Privé à la cambrousse, ben, c'est un homme qui, dans des circonstances... où il découvre des choses, apprend qu'il y a un talent pour justement trouver les choses et décide de devenir détective privé dans sa petite campagne du fond de la Provence.
Mm-hmm.
C'est extrêmement chouette parce que c'est aussi une BD qui est aussi naïve que son personnage. C'est-à-dire que comment devenir détective privé dans un village qui comprend à peu près 350 personnes.
Ça, il n'y a pratiquement pas de crime, dans le fond, donc on va gratter peut-être un peu plus loin pour justifier les services du détective.
Il y en a, c'est sûr qu'il y a des crimes, mais on peut penser que ça va être qu'il n'y aura pas assez d'œufs dans le poulailler ou qu'il va avoir peut-être une petite tromperie et on va essayer de sauter la clôture chez une autre famille. Mais c'est surtout que tout le monde le connaît, là.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'il y a n'importe où, tout le monde le connaît. Mais être réussi à amener dans le ridicule de l'histoire des enquêtes qui deviennent très intéressantes. Il se passe pas mal plus de choses dans ces petites campagnes-là qui ont l'air à s'en passer. Et puis, il y a un petit côté, là. Ce que j'ai aimé, moi, j'aime beaucoup le cinéma de Jacques Tati.
Mm-hmm.
Je trouve qu'il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de poétique dans le cinéma de Tati, et je trouve que Ace réussit à faire un peu ça dans sa BD. Il y a un petit côté Monsieur Hulot là, mm-hmm. là-dedans, là, que je déteste pas du tout. Et il y a un petit côté polar aussi qui qui est bien amené, qui est bien raconté. Donc, c'est bien fait. C'est une très, très, très belle BD. Là, il y a trois aventures qui ont été regroupées dans ce premier tome-là qui fait un livre de 300 quelques pages. Et j'ai l'impression que ça va continuer parce qu'il y a un petit 1 entouré en dessous du 1 privé à la Cambrousse, là.
Alors, effectivement, si la première lancée est bien réussie, on peut s'imaginer est-ce qu'il y a un deuxième tome qui soit déjà en cours, surtout avec un concept justement qu'on a. J'ai pas l'impression en fait qu'on a beaucoup vu ce style justement d'esthétique, de contextualisation d'histoire non plus. Là, on réussit à renouveler peut-être un peu un.
C'est un auteur qui a son genre à lui. Il a son intelligence à lui. Puis, il fait quelque chose qui est assez, comme je disais tantôt, qui est un peu en marge, qui est un peu à part, et il le fait bien. Mm-hmm. Honnêtement, là, dans mes dernières années de BD, là, c'est un de mes coups de cœur, ça, là. C'est une BD avec laquelle j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir, et j'ai eu l'impression que je découvrais quelque chose, même si c'est pas... j'ai l'impression que c'est je suis pas sûr, j'ai pas fait de recherche là-dessus, là, mais j'ai l'impression que c'est même des rééditions de quelque chose qui est paru dans des trucs un petit peu plus à part il y a quelques années, puis que Gallimard a décidé de rééditer, là.
Alors ça s'appelle Un privé en Cambrousse. Et Stéphane, il nous reste peut-être une petite minute et demie à peu près. Est-ce qu'on parle d'un autre album, peut-être autre genre?
Oui, les autres genres, tome 2, et ça, il va y avoir des tomes 2, 3, 4, 5. Il va en avoir, là, c'est clair, de tout ça. C'est une BD qui est faite de façon collective au niveau du dessin, mais scénarisée par une seule et même personne qui est Thomas Cadden. Mm-hmm. Thomas Cadden travaille avec plusieurs auteurs de BD et font. Lui fait et dessine un feuilleton. Et c'est vraiment un feuilleton dans l'esprit du feuilleton télé. Les autres gens, c'est une BD qui paraît et qui est apparue au départ via l'Internet. Et puis, les gens devaient s'abonner pour pouvoir lire cette BD-là et avoir à chaque jour les pages de son feuilleton BD. Et là, on tombe un petit peu dans le système du feuilleton télévisé. C'est très intéressant, là. Et là, c'est un feuilleton BD. Et là, étant donné que ça a eu un succès sur le web, on a décidé, la maison d'édition Dupuis a décidé d'en faire des albums de BD. Et je suis extrêmement content de lire ça en papier, parce que sur le web, ben, c'est quand même... T'as l'avantage de vivre au jour le jour les aventures, mais en BD, c'est le fun.
Mais l'objet nous manque. En fait, la bande dessinée, c'est un médium qui se porte bien à l'objet, je trouve,
personnellement. Il y a des dessinateurs comme Bastien Vivès là-dedans. Il y a vraiment des dessinateurs qui ont beaucoup, beaucoup de talent. Ce qui est plus difficile, c'est d'aventure en aventure, de jour en jour. Étant donné que les dessinateurs changent, ben c'est de reconnaître nos personnages, c'est de reconnaître les personnages principaux du feuilleton, parce que justement la physionomie change. Mais à un moment donné, on prend le rythme et on les reconnaît et on embarque. Puis il y a des moments où il se passe plein de choses, il y a des moments où il se passe rien, comme un feuilleton. Mmh. Et on devient un peu témoin de la vie de ces personnages de papier, et je trouve ça fascinant d'avoir fait ça, parce que c'est quand même un travail, c'est un travail énorme, là. Dupuis vient de sortir le tome 2, et je pense que le tome 3 est déjà à nos portes, puis c'est des trucs de 250 pages, ça veut dire que il y en a de BD là-dedans, là.
Alors, on surveille ce titre. Donc, deux belles recommandations pour commencer, Stéphane. Donc, Un privé en Cambrousse, Autres gens, des sorties récentes. Stéphane Gravel, on se dit à dans deux semaines.
À dans deux semaines, et écoutez la Coupe du monde de rugby. Expliquez-moi le règlement après.
C'est bon. C'est bon. Ah ben voilà, donc Stéphane Gravel avec ses critiques bande dessinée. On respire un peu. Au retour, Philippe Girard. formation de Parish of Little Clifton avec cette pièce donc qu'on vient d'entendre qui s'appelait donc Into the Forest. Et ben il est déjà 17h45 minutes et c'est une belle heure pour nous parce qu'on a le plaisir de recevoir Philippe Girard pour parler de son tout dernier né, une bande dessinée qui s'appelle Rewind qui vient tout juste d'être publiée chez Glénat Québec. Philippe Girard, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va très bien, oui, merci.
Les lancements s'en viennent. En fait, à Québec, oui. Le lancement est prévu pour le 29 chez Phylactère.
Exact.
La BD vient d'arriver en librairie, donc j'imagine que c'est un peu la prochaine étape après l'avoir dessiné, après avoir vu l'objet, de voir comment les gens vont recevoir ce volume-là.
Oui, c'est sûr que c'est une grande étape aussi pour l'auteur. Donc, tu sais, tout le temps que tu passes à dessiner ton livre, là, ça avance tellement lentement que tu as le temps de te poser mille et une questions, en tout cas du moins par rapport à tes propres sentiments par rapport au livre. Mais les sentiments des lecteurs, ça, malheureusement, c'est seulement le jour du lancement qu'on peut commencer à les mesurer.
Et la réponse va pouvoir être mesurée très, très bientôt. Il faut dire, Philippe, Rewind, le titre est bien choisi, en fait. C'est vraiment un retour en arrière, un peu. Ça me faisait penser un peu à Cour-le-la-Cour, peut-être, en fait. Des légères altérations dans une histoire qui revient plusieurs fois et qui, de fois en fois, nous permet aussi d'approfondir ce qui s'est passé avant cette histoire. Un concept extrêmement intéressant, extrêmement risqué aussi, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui amené à choisir de le porter en album?
Ben en fait, déjà, le titre Rewind, il fait référence à deux choses. Donc, il fait référence à une narration en boucle, j'ai envie de dire. Mais il fait aussi référence au fait que ce livre-là se situe chronologiquement avant le précédent, avant La visite des morts. Donc, La visite des morts, qui est un livre que j'ai publié il y a peut-être un an et demi, et qui racontait l'histoire d'un type qui se promène de salon funéraire en salon funéraire pour faire l'éloge des morts, même s'il ne les connaît pas. Et quand j'ai eu terminé ce livre-là, il y avait déjà cette ambiance de gangster dedans qui me plaisait beaucoup. Et j'ai eu envie d'approfondir un peu cet univers-là. Donc, j'ai repris des personnages de ce livre-là. Donc, en l'occurrence, un gangster là, qui est mort. À un moment donné, dans La visite des morts, le protagoniste arrive au funérailles d'un gangster sans le savoir. Donc, le type est déjà mort, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, avec Rewind, ça me permettait d'expliquer pourquoi ce gars-là était mort, tout en continuant à baigner là, dans cette ambiance-là de film noir, j'ai envie de dire de polar un peu décalé.
Oui, mais j'ai l'impression en fait que c'est un genre aussi que vous affectionnez quand même passablement. J'avais envie peut-être de faire des parallèles avec Japrizo ou d'autres.
Ben, Sébastien Japrizo qui est mon auteur préféré, c'est vraiment un beau compliment. Mais j'avais déjà exploré cet univers-là avec Danger public aussi, un livre qui a été publié à la Pastèque quelques années.
Avec Lifton, je crois.
C'est ça, j'avais écrit le scénario pour Lifton. Mais je dois dire que j'aime beaucoup les ambiances film noir, puis je trouve que la bande dessinée s'y prête aussi.
Oui, il faut savoir quand même les amener, la rythmer. Et dans Rewind, justement, on se permet beaucoup de moments où on voit le plan qui se travaille, on voit, on passe du flou au non-flou. On joue aussi avec la structure même des cases, dans le dessin du moins.
Oui, mais c'est ça. C'est, en fait, j'en ai profité un peu pour me faire plaisir du point de vue du dessin, parce que dans La visite des morts, c'était un récit où c'est beaucoup le texte, en fait, qui portait le récit. Et là, je me suis dit, pour celui-là, bon, ben, let's go, là, paye-toi la traite. On dessine des gars qui sautent par-dessus des voitures, qui se font tirer dessus, des poursuites en voiture. J'avais envie d'un récit dans lequel il y avait plus d'action. Au sens propre du terme. Donc, c'est ça, Rewind se prêtait bien à ça.
Et en même temps, beaucoup d'action et beaucoup de... Je dirais pas de répétition, parce que le récit, c'est Rewind, mais ça se répète pas. Là, c'est... mais il faut quand même que, justement, les variations qu'on amène soient assez solides, aussi que ça se tienne dans le contexte, justement, où il y a des retours en arrière, où l'action en vient à se répéter aussi.
Mais, encore une fois, l'idée du scénario de Rewind vient d'un jeu auquel je me prêtais avec des amis quand j'étais au secondaire, là, en fait, avec un ami. On prenait l'autobus pour aller à l'école, puis on devait avoir 13 ou 14 ans, puis le jeu c'était ça, si ta vie était en danger, que tu devais te lancer dans les bras d'une inconnue qui te sauverait la vie, mais sans la connaître. S'il faut que tu choisisses, autrement dit, parmi un paquet d'inconnus, quelle est la personne qui est la plus susceptible de t'aider, qui choisirais-tu? Et puis donc, on était dans l'autobus pendant presque une heure le matin, puis on dit « Ah, ben moi, je prendrais une telle », puis l'autre disait « Non, 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 tu le sais pas, cette personne-là a l'air d'une étudiante, mais en réalité, c'est une dangereuse meurtrière, bon. »
C'est totalement d'un côté caché, dans le fond.
Ben c'est ça, c'est qu'on fréquente des gens tous les jours sans trop les connaître, puis on croit en fait les connaître ou les reconnaître du moins parce qu'on les voit sur une base régulière dans les transports en commun ou à l'épicerie, mais en réalité, on connaît rien de la vie privée de ces gens-là. Donc ça, c'était l'idée qui était, en fait, c'est l'idée qui m'a donné le goût de faire Rewind. D'autant plus que le jeu, évidemment, là, aujourd'hui, je peux pas dire que je m'y adonne encore, mais ça a occupé quand même mes journées pendant de nombreuses années, donc je présume qu'il y a quelque chose qui est resté en moi autour de tout ça. Mais c'est ça, pour un auteur, le plaisir d'écrire aussi puis d'inventer des personnages, c'est un peu ça, là, le scénario de Rewind. Donc l'idée de prendre une scène et de la rejouer à plusieurs reprises, mais avec un dénouement différent, ça me permettait de développer des personnages et un peu de faire tomber le masque de chaque personnage aussi, donc de présenter une personne d'une part sous un certain angle, pour après coup essayer de retourner le personnage et de dévoiler un aspect de sa personnalité qui n'était pas du tout pressenti, si on veut.
Oui, puis en fait, au niveau du scénario, pour nous, lecteurs, en fait, je veux dire, on se demande justement qu'est-ce qui va être dévoilé, ça va être quoi le petit retour, parce que veux pas, à chaque recul, il y a... On se retrouve dans la même situation, mais qui vient d'être aussi légèrement redéfinie avec les nouveaux éléments, avec les couches qui se révèlent tranquillement.
Oui, c'est ça, c'est un peu ça, ouais.
Et à l'intérieur de ça aussi, dans le fond, est-ce que c'est un peu un défi au niveau d'abord scénaristique, justement, de trouver ce rythme-là quand on écrit l'histoire, ou c'est au dessin qu'on réussit un peu à doser les silences, le côté cinématographique de la chose?
Oui, bonne question. Je pense que ça, chacun a ses propres recettes. J'ai envie de dire, chaque auteur a sa propre cuisine. Je dois dire que dans le cas de Rewind, je savais où je m'en allais, mais j'avais pas écrit le scénario avec les dialogues, tout ça. Ça s'est beaucoup fait au fur et à mesure. Puis bon, des fois, je revenais un peu en arrière, je me disais, ah tiens, ici, peut-être qu'il manque un silence. Donc, je rajoutais une page. Puis c'est un livre qui s'est fait, c'est pas un livre que j'ai fait de façon linéaire, si on veut. Mais je savais très bien où je m'en allais avec ça, mais j'avais un peu le goût, comme j'avais le goût de miser sur l'action, puis sur le mouvement, puis sur la dynamique réelle des personnages et du récit, il y a quelque chose qui s'est composé réellement au fur et à mesure. Mais ceci étant dit, c'est un procédé que j'utilise souvent là, pour faire des livres, parce que, bon, à un moment donné, je pense qu'il faut savoir, comme auteur, profiter des opportunités qui se présentent en cours de travail. On a beau vouloir planifier les choses, ou en tout cas prévoir les coûts, il en demeure pas moins que la bande dessinée étant un médium qui avance très lentement, quand on est en train de dessiner, souvent, on se dit « Ah tiens, ici, j'aurais pu faire telle chose. » Donc, quand on a la possibilité de profiter justement de cette opportunité-là ou de la fenêtre qui se crée, je pense que généralement, c'est une bonne chose.
Effectivement, faut savoir être à l'écoute de son récit pour le bonifier finalement, parce que j'imagine aussi qu'il y a un instant, à un moment donné, où on se dit si je pense que ça devrait être inséré là, c'est peut-être parce que le chemin qui m'a amené jusqu'ici, finalement, nécessite d'aller par là aussi.
Oui, mais je sais pas, j'ai envie de dire que c'est sans doute un des beaux aspects des récits de fiction, c'est que contrairement aux récits autobiographiques, là, ou même à la bande dessinée autobiographique, parce que c'est un genre qui est très populaire en ce moment, donc les bienfaits de la fiction, c'est qu'on peut se projeter tour à tour dans chacun des personnages. Mm-hmm. Donc, finalement, les auteurs sont toujours cachés derrière les personnages qu'ils inventent. Et puis, encore une fois, je trouvais que ça, c'était intéressant. Donc, il y avait un récit qui était relativement, j'ai envie de dire, prévu, ou en tout cas, je savais où je m'en allais, mais, bon, tranquillement, pas vite, en dessinant ma petite page, tranquillement, tous les jours, je me disais, ah tiens, ici, pour arriver telle chose, puis le personnage pourrait soudainement vivre tel revirement de situation. Donc, je sais pas, j'avais envie de me donner toute la latitude possible, en tout cas, de ce point de vue-là, sans m'être contraint par un scénario trop prévu ou trop bien écrit.
Puis en même temps, j'ai l'impression que ça sent aussi pour le lecteur, dans la mesure où, dès le départ, de toute façon, face au scénario, il y a pas de données précises qui sont établies. Je veux dire, on est lancé un peu dans l'histoire et après ça, on suit. Donc, j'ai l'impression que ça c'est propice aussi à ce type d'apport de l'instinct.
Peut-être. C'est vrai que c'est un récit qui commence vite. Dès la première case, on est dans le feu de l'action. Il n'y a pas de long préambule. Mais bon, encore une fois, la bande dessinée, c'est un médium qui est proche du cinéma beaucoup. Hein. Puis dernièrement, je discutais avec un ami des films de Woody Allen. Puis je trouve qu'il est comme ça lui aussi. Dans un film de Woody Allen, ça commence tout de suite. Mm-hmm. Il y a rarement un long préambule. Puis je veux dire, dès les premières secondes, on est dans le film. Mm-hmm. Puis on est dans le cœur du sujet. Donc, encore une fois, pour la BD, en tout cas, on verra ce que l'avenir me réserve là. Mais je trouve que c'est un médium qui se prête bien à ça, à l'action, au dynamisme, etc.
Puis à la limite, en fait, c'est la personne qui reçoit aussi de décider la vitesse à laquelle l'action se passe. Je veux dire, est-ce qu'on prend le temps de bien suivre les images? Ou à la limite, dans des interprétations, genre la première fois que je l'ai lu, l'action passait rapidement, on veut savoir ce qui arrive. La deuxième fois, OK, on va avoir un film un peu plus lent, un film noir où on suit les travelling.
Je ne sais pas, encore une fois, chaque lecteur est différent. Là. Mais oui, il y a clairement deux façons de lire la bande dessinée. Même trois, on peut s'attarder seulement aux images, on peut s'attarder seulement au texte, ou on peut s'attarder aux deux. Mais encore une fois, ça, chaque lecteur est maître de sa manière de lire.
Et Philippe Girard, vous avez déjà dit que chaque ouvrage était marqué par un thème, par un axe dramatique. Oui. Dans Les Ravins, c'était la peur. Dans Tuer Velasquez, c'était l'importance des livres. Mm-hmm. Dans Danger public, c'était la violence intérieure. Si on avait synthétisé thématiquement Rewind, ce serait quoi?
Ben, c'est un livre qui parle de la mort ou de la peur de mourir, en fait. Pour moi, le thème central, c'est ça. Et d'ailleurs, depuis Les Ravins, là, que j'ai lu il y a quelques années, qui était un peu consacré à la mort d'un de mes amis, J'ai découvert que la mort habitait maintenant mon univers d'auteur, que je ne pouvais plus m'en débarrasser, si on veut. Là, ça plane toujours au-dessus de mes récits. Je pense que la... Puis d'ailleurs, dans La visite des morts, l'ouvrage précédent, réellement, là, on sent que c'est une longue réflexion sur la mort, mais je pense que dans le cas de Rewind, la vraie différence, c'est que je me sens plus à l'aise, peut-être pour rire de cette idée-là, ou de m'amuser avec l'idée de la mort, même si c'est peut-être un peu bizarre comme phrase, là, mais pour moi, c'est un long cheminement, en fait. Là. Mon ami est décédé il y a 7 ans maintenant, mais je me sens donc plus en paix par rapport au deuil ou par rapport à l'absence de mon ami. Peut-être justement au point de pouvoir étudier ou m'amuser avec le concept de la mort pour en faire presque un jeu, comme c'est le cas là, dans Rewind.
Et on invite les gens à aller jouer avec vous, justement, avec cet album publié chez Glénat. On disait, lancement notamment le 29 à Québec, dans Librairie Phylactère, c'est en 5 à 7.
Oui, c'est ça, 5 à 7, ça va peut-être déborder un peu.
Et au-delà.
Oui, c'est ça.
Tant qu'il y a des livres à signer.
Voilà.
et parallèlement, question curiosité, enfin, on avait vu passer, avec La visite des morts, qu'il y avait eu un intérêt cinématographique. Est-ce que c'est toujours... toujours là?
Je présume, là, j'avoue, j'ai pas parlé au réalisateur, au producteur, je devrais dire, ces derniers mois, parce que bon, c'était les vacances et tout ça, mais la dernière fois qu'on s'en était parlé, il était question de ramasser de l'argent pour faire un film, parce que ça prend pas mal plus d'argent à faire un film que pour faire une BD. Donc j'ose croire qu'il est encore à cette étape-là. Mais ceci étant dit, je c'est pas que le projet ne m'intéresse pas, là, ça m'intéresse beaucoup, mais je crains, disons, de commencer à faire du stress si je m'implique trop dans ça. Puis donc je le laisse aller, là, je le laisse travailler, puis lui, il me redonnera des nouvelles quand il sera prêt. Mais franchement, là, quand on considère la montagne de travail et d'argent que ça prend pour faire un film de nos jours, là, surtout comparé à l'échelle minuscopique de moyens dont j'ai besoin, moi, pour faire un album de BD, vraiment, je suis pas sûr d'être capable de vivre avec ce stress-là. Là. Je préfère me concentrer sur mes livres.
Et on n'en sera pas mécontents. Cela dit, votre perspective est purement intéressée. Et Philippe Girard, outre le 29, d'ailleurs, on peut le mentionner, on aura sûrement l'occasion de s'en reparler, mais en octobre, dans le cadre du Festival Québec en toutes lettres, le 21 septembre, il y a un concert animé avec Hervé Bourris.
Un concert dessiné. Au Palais Montcalm, le 21 octobre, c'est gratuit. C'est à 21h30 avec donc le dessinateur français Hervé Bourris et les musiciens Fred Lebrasseur, Todd Picard, Guy Bernier et André Bilodeau. On fera donc un concert dessiné autour de la musique des Beatles, parce que Régent Ducharme, qui est le sujet de Québec en toutes lettres cette année, parle des Beatles dans son livre L'hiver de force. Donc rappelez-vous, les Beatles de force, 21 octobre, 21h30, au Café du Palais Montcalm.
Et c'est pour ça qu'on se permettra de se dire à bientôt.
Merci.
Philippe Girard, merci. Alors voilà l'album, je le rappelle, ça s'appelle Rewind. C'est disponible chez Glénat Québec à partir d'aujourd'hui. Lancement le 29 chez Phylactère. Vous êtes toujours à l'écoute de CKRL 89.1, l'émission La vie en BD qui se poursuit. Raymond Poirier avec vous. Et je me permets un petit moment pour vous parler d'un album qui est sorti cet été. Enfin, nous, on va en reparler également la semaine prochaine puisque l'auteur sera avec nous, Jeff. Il s'agit de son premier album d'une nouvelle série qui s'appelle White Crows. Et j'ai trouvé ça bien intéressant d'ailleurs comme choix de thématique. Il faut dire que de manière générale, Jeff nous avait habitués dans ses précédents albums à nous amener dans des univers fantastiques. On pense au Crépuscule des dieux, notamment. Et avec cet ouvrage, White Crows, il se retrouve en plein mi-chemin entre le cinquième élément, Blade Runner, pour les références cinématographiques. Et il le fait également très bien. Toujours un bon dessin. Je veux dire, il y a une très, très belle plume, un très beau trait, JF. Et à l'intérieur de ce récit, on voit aussi ses qualités, je trouve, de scénariste. Donc, il réussit à amener une histoire qui a un petit côté naïf quand même, mais qui demeure très crédible dans le cadre de l'univers, justement, qu'il impose à ses personnages. On parle ici d'une enquête, en fait, sur une sombre histoire de contrebande d'armes, sur un flic un peu désabusé qui se voit confronté à une fille qu'il croyait ne plus jamais revoir, finalement. Donc, la jeune femme qui rentre dans sa vie, un petit robot également qui est là pour support dramatique. Bref, on voit un peu le type d'ambiance un peu concret, donc un côté bon enfant mélangé avec justement ces séquences d'action totalement assumées. Donc, ce qui fait que c'est un ouvrage bon, qui ne réinvente pas nécessairement la bande dessinée, mais qui est solide pour ceux qui ont envie d'explorer justement à travers les bulles l'univers de la science-fiction. Alors, ben voilà, une petite mention au passage. Donc, cet album qui s'appelle White Crows, le tome 1, Cœur d'acier, c'est disponible chez Soleil depuis la fin août dernier. On prend une pause. Au retour, on parle BD autobiographique et on va également jaser de l'influence du manga sur la BD occidentale.
Premier acte, le théâtre du Buffet présente Note de cuisine de Rodrigo Garcia.
C'est une prise de parole aigre-douce, plutôt acide, mais pas trop sucrée, sur notre façon de voir, de parler, de mettre à télé, d'ingurgiter, de digérer la nourriture, la bouffe, le manger.
Une formule sous les spectacles au restaurant La Cuisine, du 11 septembre au 11 octobre.
Ça veut dire qu'on joue les dimanches, lundi et mardi à 19h. Arrive pas en retard, même si c'est pas maman que d'habitude.
Billets en vente sur le réseau Billettech au 643-8131. Une collaboration de la Caisse populaire de Québec, du bar Le Sacrilège, de l'Intermarché Saint-Roch et CKRL 89.1. Information premieracte.ca.
Et puis on est aussi commandité par Boréal, la bière, là.
Du 10 au 18 septembre, vivez l'International des musiques sacrées de Québec. Découvrez des musiques de partout dans le monde, Europe de l'Est, Inde, Angleterre. Retrouvez des grands noms d'ici ainsi que l'incontournable Grand Messe de Gilles Vigneault et Bruno Fecteau. Célébrer notre 15e anniversaire avec Grégory Charles et son chœur de chambre. Du 10 au 18 septembre, l'International des musiques sacrées de Québec. Exaltant et inspirant. Programmation complète sur imsq.ca. Une présentation des foyers d'Unbar.
La une qui tue avec Jean-Philippe Gauthier.
Un jeu questionnaire au cœur de l'actualité. Les concurrents qui devront faire face à l'élimination parce qu'un seul survivra à la une tue.
En nouveauté, ce soir 19h à Télé-Québec, l'autre télé. Tous les samedis dès 13h, écoutez la nouvelle saison de Contes de fées, l'émission consacrée à la littérature jeunesse d'ici et d'ailleurs et animée par Olivia Bui. Deux rubriques se sont ajoutées à l'émission. Le coin des enfants lecteurs qui donne la parole à des jeunes qui présentent leurs livres préférés et Comme des écrivains qui présentent les œuvres des élèves de l'école de la Grande Hermine. Contes de fées dès 13h, tous les samedis sur les ondes de CKRL, vous est présenté par la librairie Pantoute et Studio P. J'aime à me faire peur.
Tes goûts.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e Avenue, 418-529-3829.
Toujours à l'écoute de La Vie en BD. On a un blog également. On vous invite à aller le visiter, lavieenbd.wordpress.com. On mettra d'ailleurs quelques indications sur notre sélection musicale de cette semaine, quelques liens autour des sujets dont on a parlé cette émission. Également, l'émission sera disponible en podcast. Mais là, si vous ne nous écoutez pas présentement, mais peut-être que vous direz à vos amis, mais écoutez-le en podcast, il est aussi disponible. Voilà. Alors, cela étant dit, un gros sujet, en fait, sur lequel on va se lancer pour les prochaines minutes, l'univers de la BD autobiographique en lien avec l'univers numérique. Donc, quelles sont les influences de l'un à l'autre? Est-ce que Le blog est venu changer un peu la manière dont on fait l'autobiographique, et voire même, le blog est-il responsable de la crise de la bande dessinée autobiographique contemporaine? Alors, c'est quelques-unes des questions qui sont soulevées dans un essai qui a été publié à la fin août aux éditions Colosse, un essai qui s'intitule « La bande dessinée autobiographique à l'ère des technologies numériques ». C'est de l'auteur Julie Delporte, et elle est avec nous pour en parler. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, d'abord, enfin, je lance un peu la question générale. Là, pourquoi on s'est intéressé à cet impact du numérique sur la bande dessinée autobiographique? Pourquoi mettre l'accent aussi dans cette réflexion-là sur l'autobiographique à proprement parler?
Ça vient de plusieurs questionnements. Bon, d'abord, il y a eu pas mal de textes critiques sur la crise autobiographique, la crise de l'autobiographie en bande dessinée. Et tous ces textes, et il y a des textes de Jean-Christophe Menu, qui est l'ancien éditeur de l'association, des textes de David Turgeon, qui est un auteur et un critique qui habite à Montréal, par exemple. Et alors, ces textes-là évoquent le blog, mais sans vraiment cerner l'importance du blog dans ce qu'ils appellent la crise de la bande dessinée. Donc moi, j'ai voulu aller me poser cette question, me demander, parce que c'est vrai que c'est devenu un phénomène très important de faire de l'autobiographie en bande dessinée sur Internet. Mmh. Donc j'ai voulu aller savoir, est-ce que c'est ça qui a provoqué une sorte de crise? Bon, puis après, il y a des questions plus personnelles. Moi-même, j'ai écrit des livres autobiographiques, notamment un qui parle d'un événement assez traumatisant pour moi et que j'ai pu écrire dans le cadre d'un livre, mais que j'aurais jamais osé mettre sur Internet. Mmh. Donc j'avais cette question-là de... Je me suis rendu compte, et en parlant à d'autres auteurs, que c'était pareil pour eux, qu'on ne pouvait pas écrire la même chose quand on fait de l'autobiographie sur Internet et dans un livre. Je voulais la cerner.
Et effectivement, vous abordez ces différences-là dans votre essai. Vous dites, ben regardez, quand on traite d'autobiographie sur le blog, nécessairement, ça devient anecdotique. Il y a un côté très léger. Donc, on ne peut pas aller justement chercher des éléments peut-être un peu plus sombres ou aussi impliquants personnellement dans ce support-là.
On peut le faire, mais c'est à mon avis beaucoup plus difficile. Et quand on regarde la majorité des blogs, c'est vrai qu'il y a une tendance dans l'autobiographie sur Internet à être beaucoup plus anecdotique et beaucoup plus léger, parce qu'on est plus proche, selon moi, de son lecteur par le biais des commentaires, par la présence Internet, et aussi parce que c'est plus direct. Quand on fait un livre, on a plus de recul. Tandis qu'en général, quand on fait un blog de bande dessinée autobiographique, on dessine la journée et c'est plus en temps direct. Il y a quelque chose de plus immédiat.
Mmh. Et à la limite, en fait, vous l'assimilez à une certaine BD réalité.
Oui, ça c'est plus quelque chose de... Je dirais que tous les blogs autobiographiques de bande dessinée ne sont pas ce que j'appelle des BD réalité. Mais il y en a certains qui le deviennent dans le sens où il y a vraiment toute une influence de la fausse intimité qui a été créée avec les phénomènes de télé-réalité, qui est encore un peu développée par des réseaux sociaux tels que Facebook, ou etc. Et qui est comme, au lieu d'exprimer une certaine intériorité personnelle, on en arrive juste à communiquer une intimité superficielle. Alors, je ne sais pas si ça peut être très clair, mais...
Et donc, à la limite, en fait, si on en revient à notre question de départ, c'est de savoir un peu si le blog BD à saveur autobiographique est venu appauvrir le genre de BD autobiographique au sens large.
Mais,
ou le transformer, pas nécessairement pour le meilleur, et amener une nouvelle BD, si on me permet l'expression.
Mais, en fait, le livre a une conclusion assez ouverte sur le fait que, est-ce que c'est le blog qui est responsable? Je pense que c'est vraiment pas le seul responsable. On peut pas dire tout est de la faute du blog, mais le blog participe, le dispositif, la manière dont on écrit, dont on interagit entre auteur et lecteur, participe du changement qui est décrit comme une crise par les critiques. Mmh. Mais on peut pas dire que c'est le seul responsable.
Et à la limite, en fait, il y a un élément qui est amené, en fait, du moins, si j'ai bien saisi, ce serait de dire éventuellement, ben, il y a la BD autobiographique, il y a le blog, mais que le blog, éventuellement, soit un genre à part entière, soit considéré comme un genre à part entière.
Ben, ça devient un genre, parce qu'il devient très codifié, très semblable les uns aux autres. Dans mon essai, j'ai pris comme exemple... les blogs de Pénélope Bargieux et Margot Motin, qui sont deux auteurs françaises assez célèbres, qui ont réussi, qui, je pense, gagnent leur vie avec ce qu'elles font, même, ce qui est assez rare pour des auteurs Internet. Mm-hmm. Et alors, j'ai voulu démontrer à quel point elles se ressemblaient l'une l'autre. Elles ont quelque chose de très commun, et c'est, selon moi, comme une preuve qu'il y a une sorte de genrification de quelque chose qui avant n'était pas vraiment un genre. L'autobiographie, pour moi, il y a des gens qui vont vous dire que c'est un genre, mais pour moi, ça n'en est pas un, parce que c'est plutôt une approche, un pacte qu'on fait avec le lecteur. Je vais vous parler de moi. Ça peut être vrai, ça peut être faux, mais le pacte est « je vais vous parler de moi ». Et après, le fait de millions de façons différentes, je pourrais faire de l'autobiographie d'horreur, de l'autobiographie humoristique, de l'autobiographie de plein de genres différents, dans un western, etc. Mais là, on se retrouve en effet avec une sorte de nouveau genre qui est le blog BD autobiographique.
Et comme vous le disiez tout à l'heure, on ne l'aborde pas de la même manière qu'un album. Autant au niveau thématique, j'ai l'impression qu'en parallèle au niveau du travail de dessin, en fait, vous avez fait du blog autobiographique aussi, ça s'appelle Le Dernier Kilomètre. Et est-ce que je m'éloigne en disant que vous ne dessineriez pas pour le blog comme vous dessinez pour un album?
Je ne raconterai pas la même chose, je ne le structurerai pas de la même manière. Après, mon dessin serait peut-être le même, parce que moi, je ne travaille pas du tout avec l'ordinateur. Mm-hmm. Mais après, il y a quand même une tendance à faire des choses assez rapidement sur Internet, parce qu'on fait le dessin dans la journée même, et on le met le soir. Donc, ça peut être... Il y a aussi une perte de profondeur et de détail dans l'image, mais ça, c'est pas forcément exactement ce qui est considéré comme une crise, mais c'est sûr que ça peut être un changement aussi qui est dû au blog.
Puis de voir éventuellement aussi de quelle manière on pourrait explorer les médiums numériques pour faire autrement justement que du papier scanné ou de la BD traditionnelle, mais sur un support différent, dans le fond, d'aller plus loin avec de l'ambiance, avec...
Oui, alors ça, c'est la grande question, ce qui intéresse beaucoup les gens impliqués dans le numérique. D'ailleurs, c'est au début de ce travail que j'ai fait sur la bande dessinée autobiographique. Moi, je voulais étudier le phénomène juste Internet et justement les adaptations formelles de la bande dessinée dans le web. Et finalement, je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce qu'on en parle beaucoup. On parle beaucoup, ah oui, alors on peut ajouter du son, on peut ajouter une certaine animation, on peut... inventer des nouvelles formes de bande dessinée. Et alors, on en parle énormément, mais finalement, des exemples de bande dessinée comme ça, numérique réussie, j'en ai juste trois en tête. Moi, les autres que je vois, j'ai toujours l'impression que soit c'est vraiment plus de la bande dessinée, soit que c'est vraiment très mauvais. Voilà. Mais,
c'est quoi les trois?
Je pense à il y a Vincent Jiard, qui est un auteur de Montréal, qui fait beaucoup d'animations sérielles, comme ça, des gifs animés qu'il insère dans ses images fixes. Donc ça reste une bande dessinée, mais parfois les images sont animées. Mm-hmm. En France, il y a Anthony Rajon, qui fait des expériences comme ça informelles, qui reste un peu des jeux, là. C'est très ludique, par exemple, au niveau du contenu, ça ne viendrait pas particulièrement me toucher, mais je trouve que ces expériences sont intéressantes par rapport à l'utilisation du web avec le langage bande dessinée. Puis aux États-Unis, il y aurait comme Blaise Larmy qui a récemment fait un webcomic qui s'appelle 2001, qu'on peut voir sur son site et qui est très très bien adapté. En fait, la fenêtre sur laquelle on peut lire la bande dessinée s'adapte suivant le navigateur des gens, et c'est vraiment vraiment mieux fait que la plupart des espèces d'essais de canevas infinis dont parlait Scott McCloud au début, puis qui sont en général assez horribles, en fait.
Alors, ça donne quelques pistes d'exploration, et également, je recommanderais aux gens d'aller mettre la main, justement, sur cet essai. Ça donne une idée, en fait, d'où on en est, de réflexions également autour de la bande dessinée autobiographique et des blogs. Alors, je rappelle le titre, donc c'est la bande dessinée autobiographique à l'ère des technologies numériques. C'est disponible chez Colosse, donc pour les gens de Québec, en fait, commande par le web sans problème. On mettra le lien sur le blog de l'émission. Julie Delporte, merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
Et bonne fin de journée.
Au revoir.
Voilà, donc Julie Delporte, auteure de cet essai, titulaire d'une maîtrise en histoire de l'art en études cinématographiques. On respire musicalement. On revient tout de suite après. Au retour, on jase manga et occident avec Michel Giguère. Petit extrait de cette formation de Parish of Little Clifton. La pièce s'appelle It's OK, Roseanne. Et on poursuit cette émission, cette première édition de La Vie en BD. On est rejoint par un de nos collaborateurs. Il est professeur de bande dessinée à la Maison Jaune. Il est responsable également des rendez-vous de la bande dessinée de la bibliothèque Gabriel Leroy. Michel Giguère, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
C'est un privilège d'être ici ce soir au micro.
Et c'est un privilège de t'avoir avec nous également, Michel. Il faut dire, enfin, on profite aussi un peu des rendez-vous de la BD qui se travaillent, qui s'organisent, qui s'en viennent. Et notamment, ben, le prochain rendez-vous est déjà prévu pour la semaine prochaine. Où on va parler un peu, ça s'appelle un air de manga. Donc, on le disait tout à l'heure, on va faire des ponts entre le manga et l'Occident parce qu'il y a des ponts entre ces deux univers-là.
Oui, c'est très diversifié. Et en fait, j'ai comme concilié l'envie d'inviter Michel Falardeau, qui est un bédéiste québécois, d'une part parce que c'est un chic type qui est super sympathique, volubile, loquace, et puis il se trouve que son dernier album, justement, porte la marque de l'influence de la BD japonaise. Et j'avais, moi, en tête depuis des années, cette idée-là d'aborder une dimension un peu particulière du phénomène manga, à savoir son influence sur la production occidentale, c'est-à-dire les BD qui sont faites par des BDistes américains, européens et québécois.
Mmh. Et justement, ces liens-là, est-ce que tu aurais quelques exemples pour justement voir un peu les ponts qu'on peut faire entre les deux univers? Peut-être d'abord, parce que j'imagine qu'il y a deux périodes aussi, il y a la vague récente où le manga s'est beaucoup étendu, mais il y a avant cette vague-là aussi, donc je pense que ça vaudrait la peine de scinder entre les deux périodes.
Oui, bien, sauf qu'il y a une période dont on ne parlera pas longtemps, parce qu'il y en avait très peu. Écoute, on parle des années 90, disons les 20 dernières années, ça correspond un petit peu à ce que plusieurs ont appelé la déferlante, la grande vague de mangas qui sont traduits. Mais avant ça, il y a quand même eu des incursions intéressantes et souvent les BD-files ont oublié ça. Par exemple, Marini, qu'on connaît comme étant un des chefs de file d'une certaine bande dessinée d'aventure pour adultes avec un dessin réaliste et très séduisant, là, tu sais, le genre de créneau là, grand public, avec des séries comme Scorpion, Rapace, Les Aigles de Rome, ben, on oublie un peu qu'il avait débuté avec une série qui s'appelle Olivier Varès en 91 et puis aussi la série Gypsy en 95 qui étaient toutes les deux marquées par l'influence du manga. Et aussi l'Autoroute du Soleil de Baru, qui est paru en 95, mais sous l'appellation vraiment manga. On le présentait comme étant une bande dessinée faite par un Européen, mais qui était un manga. Et alors que Marini, c'était une influence au niveau du dessin, du style, chez Baru, c'était le style qu'on avait toujours connu de lui. Lui, l'influence, elle était à un autre niveau, qui est peut-être plus intéressant ou qui va plus en profondeur, à savoir la construction, la mise en page, avec peu de cases, une narration très aérée. Et là, on est plus dans le cœur du médium que si on parle simplement de façon superficielle du style de dessin.
Exactement, avec les grands yeux, puis les foulards dans le vent.
Ben, c'est sûr que c'est ce qui est immédiatement visible, le dessin, et plus particulièrement le faciès, la physionomie mm-hmm. des personnages. Donc, les grands yeux, c'est toute une histoire d'où viennent les grands yeux larmoyants des mangas. Là. Et aussi le petit nez presque inexistant pointu, le menton pointu, les cheveux pointus, et c'est des caractéristiques qu'on retrouve dans une écrasante majorité de mangas. Évidemment, il y a une tonne d'exceptions, parce qu'il s'en fait énormément, mais il y a un BDiste qui produit à partir des années 40, Osamu Tezuka, qui a eu une influence sans comparaison avec l'influence que peut avoir de ce côté-ci, là, Hergé, Franquin, Giraud ou Jack Kirby aux États-Unis. Là, okay. Ça n'a aucune commune mesure. Là.
C'est lui qui a défini le style. Dans
c'est
le fond.
Énorme l'influence qu'il a eue, à quel point il a été copié, imité. Il y avait eu beaucoup, beaucoup d'influence. Et puis, ben c'est ça, c'est très long, on les retrouve énormément. Et moi, aujourd'hui, quand je lis, bon, j'ai passé l'été à lire des bandes dessinées faites en Occident, mais très, très marquées par l'influence manga. Et puis, c'est toujours étonnant pour des gens de ma génération de reconnaître l'esthétique que j'ai connue à partir de la fin des années 60, à travers les dessins animés comme Minifée ou Prince Saphir, de revoir ça dans le visage de héros comme Batman ou Ivanhoe, qui sont vraiment ancrés dans notre culture occidentale.
Parce qu'il y a beaucoup de BDistes qui sont actifs présentement, qui ont grandi avec les débuts justement et de cette vague manga-là qui a pris de plus en plus d'impact. Et donc c'est un peu logique dans le fond qu'on voit des BDistes occidentaux emprunter des éléments de style, des éléments de construction des personnages, que ce soit sur le plan graphique ou même carrément, j'imagine, dans le format aussi. Là.
Ben, le format, c'est une autre caractéristique que c'est, bon, assez typique là, du manga généralement, qui va être dans un format plus livre de poche, avec une assez forte pagination. Mais encore là, c'est une question de centimètres et de nombre de pages. C'est encore une fois un peu superficiel. Et c'est quand on parle plus du format de la planche que là, je trouve que ça devient vraiment plus intéressant. On en a dit deux mots tout à l'heure. Et puis, il y a aussi au niveau des genres. Il faut dire qu'au Japon, ils ont des stratégies de mise en marché dynamique, pour ne pas dire agressive, et très segmentées.
Dans quel sens?
Écoute, ils vont se pencher à un moment donné sur telle tranche. Ils vont dire, OK, on n'a pas assez de lectrices entre 18 et 22 ans. Ils vont essayer de mettre sur le marché une série qui va les interpeller avec une thématique, avec des personnages ou un style propre à aller chercher ce public-là. C'est très segmenté comme ça par tranche d'âge, par sexe. Conséquence plutôt positive en Occident, c'est qu'il y a eu de plus en plus de mangas traduits en français et de plus en plus d'héroïnes en bande dessinée. Donc, de plus en plus de lectrices, et on va le voir de plus en plus dans les années à venir, de plus en plus de créatrices. Et moi, je le vérifie concrètement dans les cours que je donne, dans les sessions d'atelier que je donne. On est passé d'un pourcentage, je te dirais, dans les années 90, là, de 80% de garçons à quelque chose comme 50-60% de filles aujourd'hui.
Donc, ils découvrent le médium parce que le médium parle d'eux, parce que le médium leur présente un reflet d'elle-même, dans le fond, aussi.
On parlait tout à l'heure avec Julie Delporte des autobiographies, de toute la mouvance de la BD intimiste. C'est l'autre grande raison qui a attiré beaucoup de lectrices à la bande dessinée. Okay. Mais il ne faut pas oublier l'influence du manga à ce niveau-là, et moi, je m'en réjouis.
Et parallèlement, ce que c'est important aussi, en fait, c'est un survol, je le mentionne, en fait, je vais inviter les gens tout à l'heure, mais je pense que je le fais tout de suite. Le rendez-vous de la BD, c'est la semaine prochaine, c'est...
Ben, c'est mercredi. Le 21, et on passe 2 heures à parler de ça.
Tu imagines, on parle 2 minutes, puis... Ouais. Alors, 2 heures pour mercredi prochain. Et si on continue de faire un petit survol, justement, pour soulever ces questions-là, j'imagine qu'il y a la question des codes, qu'il y a la question des symboles graphiques aussi, qui nécessairement doit... Il doit avoir des parallèles, là.
Il y a des parallèles qui sont eux autres aussi assez facilement visibles. Bon, j'en nomme quelques-uns. Les lignes de mouvement, les traits cinétiques qu'on appelle, qui sont faites d'une façon particulière au Japon et qu'on retrouve de plus en plus dans certaines BD. J'ai passé un drôle d'été, en fait, à lire un tas de bandes dessinées faites par des noms francophones, européens, peu importe, là, avec des consonances latino ou anglaises, et puis reconnaître toutes ces marques-là qui viennent d'Asie. Et puis aussi, ce qui peut un petit peu dérouter le lecteur néophyte, l'espèce de grosse goutte qu'on va voir sur le front, sur le côté de la tête des personnages, qui peut dire toutes sortes d'affaires, mais...
Soit j'ai peur, soit je sue, soit je...
Qui t'identifie à une émotion forte, en tout cas, là, mais vraiment une unique grosse goutte, là, et que les Occidentaux utilisent de plus en plus comme code, comme symbole. Et enfin, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est les changements subis, assez drastiques, de niveau de réalisme. Écoute, j'ai un album ici que je peux te montrer rapidement. Tu vois, un réalisme, plutôt un dessin semi-réaliste, oui, avec une silhouette assez standard, là. Et à un moment donné, tu passes d'une case à l'autre, et puis, bang, le même personnage va être représenté d'une façon tout à fait caricaturale, avec un tout petit corps, une grosse tête ronde. Et là, c'est ce que j'appelle, moi, des ruptures de ton graphique.
Donc, un peu, on brise la quatrième mur, mais en BD, dans le fond, à l'intérieur de la bande dessinée.
C'est comme si on veut illustrer une émotion forte, encore une fois, en caricaturant le personnage, mais dans une espèce de fluidité du récit, là, sans autre préparation, là, bang, tu sais, on change de case et tout d'un coup, on est complètement ailleurs graphiquement parlant.
Elle est tellement contente qu'elle peut pas être dessinée comme d'habitude.
Voilà. Et ça, croyant ou non, ça se voit jusque chez Jimmy Beaulieu dans son récent album Comédie sentimentale et pornographique.
OK, donc. Comme procédé. Comme procédé. Donc, c'est assez répandu. Et parallèlement, est-ce que, en terminant, Michel, des éléments, j'imagine, au niveau du rythme du récit, si on parle de césure comme ça, est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres emprunts ou à signaler?
Ben, il y a un rythme. Il y a le rythme de la lecture qui se fait donc très rapidement pour les mangas. C'est quelque chose qui se lit, la page se lit très vite. Mais il y a aussi le rythme de l'action. Et à ce niveau-là, ce qui est distinctif, je trouve, dans la BD asiatique, c'est les grands écarts, la grande amplitude entre des scènes très lentes et des scènes très rapides. Et c'est un procédé que j'ai vu dans une série qui s'appelle Nadja, qui est excellente, là, mais que j'ai pas vu tant que ça. Et si vous venez au rendez-vous mercredi prochain, vous aurez une bibliographie complète avec des suggestions de celles qui m'ont paru les plus intéressantes. Mais de façon résumée, ce qui, moi, m'intéresse le plus, c'est quand on va au-delà de l'imitation. Plusieurs se contentent de faire de l'imitation, alors que chez d'autres BDistes occidentaux, on a intégré, digéré, à l'instar de Michel Falardeau, par exemple. Et là, on arrive avec autre chose. Il y a une connotation, il y a quelque chose d'exotique, de différent, mais c'est pas de la copie conforme. Et puis, ça va se développer. Écoute, les BDistes qui ont grandi en lisant des mangas, là, arrivent sur le marché comme professionnels à peine. On va en voir de plus en plus.
Alors, c'est peut-être un bon moment, justement, pour aller voir un peu ces éléments-là. Et je trouve, en fait, des regards comme ça, ça permet d'aller un peu plus loin dans la lecture, justement, de replacer toujours la BD occidentale, québécoise, européenne, américaine, mais dans son contexte global, le Japon, qui est un très important producteur de bande dessinée, donc c'est évident qu'il y a des liens comme ça. Alors, on les explore, donc, le 21, avec toi, Michel, à 19h30.
Avec planche projetée sur écran.
Et la bibliographie, peut-être, une fois l'activité faite, on pourra la mettre aussi sur le blog, cette bibliographie.
Oui,
alors, autour du 22-23, on surveille laviebd.wordpress.com, voilà, pour découvrir cette bibliographie-là et faire les lectures que Michel Giguère nous proposera. Michel, merci beaucoup.
Bonne fin de semaine.
À bientôt. Ah ben voilà, nous, c'est ainsi qu'on se dirige vers la fin de cette première émission de La Vie en BD. On va se retrouver, bien entendu, la semaine prochaine. Il y aura notamment Jeff qui sera avec nous, également Benoît Godbout, qui sera de passage autour de son album L'Académie des chasseurs de primes 2.5. Sinon, signaler en BD cette semaine, notamment 5 à 7 pour illustrateurs, artistes et autres, organisés par Illustration Québec, c'est jeudi le 22 septembre de 17h au Cercle. Et du côté de Montréal, ben, cette fin de semaine débute Comic-Con édition 2011, avec notamment Stan Lee et plusieurs autres auteurs de comics qui seront de passage donc dans la métropole. C'était Raymond Poirier, ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et passez une excellente soirée, un excellent vendredi. 100% dynamique s'en vient dans quelques instants.